présidence.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce 16e numéro de présidence. Dernier numéro de votre émission politique avant le premier tour des élections présidentielles. Alors que cette émission est diffusée le mercredi 11 avril, il ne vous reste en effet plus que 11 petits jours pour arrêter votre choix, si cela n'est pas encore déjà fait. Dimanche 22 avril, nous irons tous voter. Si, si, tous. Dimanche 22 avril, nous devons tous aller voter, être les plus nombreux, motiver vos amis, vos proches. Parce que la démocratie doit se faire avec et grâce à chacun de nous, parce qu'on ne doit pas laisser les autres décider à notre place, parce que le vote, ce n'est pas simplement un petit papier que l'on glisse dans une urne. Abraham Lincoln le disait, un bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil. Voter, c'est écrire l'histoire. C'est se souvenir des nuits après les barricades et de la poudre à canon sur les mains de ceux qui jadis se battaient pour la liberté et l'égalité. Voter, c'est une grande fête en l'honneur de cette vieille dame très élégante que l'on nomme Marianne et que d'autres appellent République. D'aucuns vous diront que c'est bien beau tout ça, très lyrique et rêveur, un peu bobo rive gauche qui se croit intéressant parce qu'il a deux, trois convictions éculées, mais que la Marianne, c'est pas elle qui va nous sortir de cette crise, de cette dette abyssale, de ce chômage record, de cette croissance atone, de ce pouvoir d'achat parti on ne sait où, mais parti, ça on le sait bien. Bref, que quand on vote, on pense plus à notre avenir qu'au passé. Et encore, un bulletin de vote peut-il vraiment changer les choses? Pierre Desproges disait « L'adulte ne croit pas au Père Noël, il vote ». L'adulte ne croit pas au Père Noël et pourtant il continue à décorer son sapin. Le citoyen ne croit plus que son bulletin de vote va changer les choses et pourtant, au moment où retentit dans la mairie, l'école élémentaire ou le gymnase, ces deux mots magiques « à voter », il se sent fier et se prend à rêver. Et si cette fois-ci, cela allait vraiment tout changer? Donc oui, dimanche 22 avril, nous irons tous voter, peu importe pour qui, et peut-être blanc, si aucun candidat, même pas Jacques Cheminade, ne nous correspond. Mais nous irons voter quand même, avec un petit pincement au cœur que nous jugerons peut-être nié, mais qui vaut bien plus que la tristesse des désabusés. Vote, voix, scrutin, des mots sur lesquels nous reviendrons avec notre invité, Paul Bacot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Lyon, chercheur à l'UMR Triangle et directeur de la revue Mots, les langages du politique, et vous publiez aux presses universitaires du Mirail un petit livre intitulé « Les mots des élections ». Donc, mais avant cela, il est temps de retrouver notre correspondant à Berlin. Oui, ça fait classe, dit comme ça. Antoine, qui nous a envoyé son billet d'humour et d'humeur.
Non, chers auditeurs, je n'ai pas quitté présidence, je ne l'aurais fait pour rien au monde. Parce que sur la campagne présidentielle de septembre 2011 à janvier 2012 seulement, sans commenter la dernière ligne droite jusqu'au 6 mai, ça aurait été un peu comme s'infliger de regarder l'ensemble du Tour de France, avec ses routes plates et ennuyeuses, ses commentaires frôlant à tel point le vide abyssal que les abysses elles-mêmes pourraient s'en révolter, sans aller jusqu'aux étapes de montagne et au sprint sur les Champs-Élysées. Et d'ailleurs, d'Élysée, parlons-en. À mon départ, il y a un peu plus d'un mois, Nicolas Sarkozy était en bonne voie de le quitter. Et, il y a un peu plus d'un mois, le jour même de mon arrivée à Berlin, un autre président, allemand, celui-ci, quittait son poste. À croire que décidément, je porte un petit peu la poisse au président. Ça commence à me faire un peu peur d'ailleurs. Enfin, ça aurait pu être pire. Je suis allé en Allemagne, le paradis en Europe. Hein. Alors, porter la poisse à l'Allemagne, c'est pas trop grave. Un président qui démissionne, à la limite, en plus d'un allié politique, ça fait perdre quelques cheveux et prendre un petit coup de vue à Angela Merkel. Alors, autant vous dire que ça passe inaperçu. Mais vous imaginez si j'étais allé en Grèce? La dette aurait certainement triplé, quintuplé. Christine Lagarde et Moody's auraient été contraints, pour le bien de l'économie mondiale naturellement, de réduire carrément et littéralement le peuple grec en esclavage afin que, peut-être dans plus de 4000 ans, il puisse rembourser une dette qui n'est pas la sienne. S'en serait suivi inéluctablement insurrection, révolte, révolution et même, comble d'horreur, attaque de moussaka géante bien entendu. Rassurez-vous, chers auditeurs, je reste pour le moment en Allemagne, je n'en bouge pas, et d'ailleurs, je n'en ai pas bougé. Vous avez remarqué, vous aussi? Eh oui, depuis que je suis parti, Nicolas Sarkozy, le président du paquet fiscal, de l'EPA, des 170% d'augmentation, bref, de tous ces scandales, non content de s'être métamorphosé subitement en candidat du peuple, est en tête des sondages. Je précise au passage à nos amis allemands qui, eux, ont une culture politique un petit peu différente de la nôtre, oui, qu'il est possible en France d'être réélu malgré ce genre de scandale. On peut même aller en vacances chez des dictateurs sans être obligé de démissionner. Ah là là, j'ai fait un bien fou à Sarkozy en quittant le territoire français. Il a même eu l'incroyable chance de devenir le président rassembleur qu'il voulait tant être grâce à un bon vieux fait divers gore qui lui permet en plus de remettre la sécurité au premier plan de la campagne. Oui, encore une fois, Nicolas Sarkozy nous a montré qu'il était un caméléon. Parfaitement un caméléon, un génie capable de prendre n'importe quelle identité, comme dans la série pour ceux qui, comme moi, sont nés à la fin des années 80 et ont connu la trilogie du samedi sur M6. Il change tout le temps d'idées et de couleurs. Il était vert en 2007 avec Borloo, rouge en 2008 avec la crise, et maintenant, en 2012, il retrouve sa couleur d'origine qui lui va si bien, le bleu marine. Et, posé sur la branche d'un bouleau, parce qu'il faut jamais oublier la valeur travail, il étire et propulse sa longue langue qui, avec force, promesses et mensonges, invente des chiffres et des boucs émissaires au gré des circonstances et aux aléas des sondages, paralysant ainsi ses adversaires, hypnotisant même ses électeurs. Et bien après tout ça, je me demande si ce n'est pas pour moi l'heure de revenir en France.
Un grand merci à Antoine. Alors sur la couverture du livre de notre invité, on trouve une caricature assez amusante de Jean-Paul Métallier, où un homme regarde, hésitant, une table sur laquelle sont posées une urne et deux tas de bulletins de vote, l'un portant l'indication fromage et l'autre dessert. Alors ces deux mots-là ne sont pas présents dans son livre qui recense et explique tous les mots des élections. Mais notre invité en a bien d'autres, des mots vraiment liés aux élections. Et pour analyser le langage de nos 10 candidats à la magistrature suprême, c'est Paul Bacot que nous recevons. Merci Paul Bacot d'avoir accepté notre invitation. Alors je le disais tout à l'heure, en vous présentant, vous êtes donc le directeur de la revue Mots, les langages du politique, qui a été créé par Maurice Tournier, et revue qui fêtait il y a 2 ans ses 30 ans. Alors à cette occasion, la revue s'offrait un numéro anniversaire intitulé « 30 ans d'études des langages du politique 1980-2010 ». Alors dans la présentation de ce numéro spécial, le 94e, sorti en novembre 2010, et qu'on peut donc retrouver facilement, vous reveniez sur l'évolution des recherches en soulignant que le cœur du programme, lui, était resté le même en 30 ans, citant Maurice Tournier, qui en mars 1989 déclarait qu'il fallait remettre en cause la transparence du discours par la prise en compte non seulement de ce qui est dit, mais de la manière plus signifiante souvent dont cela est dit. Je voudrais tout d'abord parler aux chercheurs que vous êtes. Alors comment fait-on concrètement pour étudier le langage politique et remettre en cause la transparence du discours? Quels sont vos objets d'études? Quelles sont les méthodes? Et quelles sont donc les évolutions que vous avez pu noter depuis 30 ans d'études dans ce domaine?
Bah, vous savez, quand la revue est née, c'était à Saint-Cloud. Elle est née essentiellement autour d'un projet quantitatif et statistique. D'ailleurs, Mots à l'époque, le titre de la revue n'était pas « Mots, les langages du politique », c'est venu quelques années plus tard. Pour les premiers numéros, le titre était simplement « Mots », et c'était un acronyme et qui était décliné. C'était « Mots, ordinateur, texte, société ». Donc le programme était très clairement lié à ce que faisait l'équipe de Maurice Tournier depuis déjà quelques années, en pionnier. Et il s'agissait effectivement, grâce aux nouveaux outils fournis par les logiciels et par l'ordinateur, il s'agissait effectivement de compter. Il s'agissait de compter les occurrences des mots, les co-occurrences, et d'essayer donc à partir de corpus souvent importants, effectivement d'aller au-delà de ce que l'on entend de façon immédiate. Ces travaux sont beaucoup plus aujourd'hui qualitatifs que quantitatifs. Enfin, une autre grande évolution, c'est la pluridisciplinarité, encore que dès le début, il y avait dans l'équipe des historiens, des linguistes. C'est la seule revue qui est vraiment à l'intersection de ces deux objets, le langage et le politique. Il y a beaucoup de revues de sciences du langage qui parlent de temps à autre de textes politiques. Il y a beaucoup de revues de sciences politiques qui, de temps à autre, parlent de langage. Mais une revue qui ne s'intéresse qu'au langage et seulement au langage du politique, qui, une revue francophone, il n'y en a qu'une. Et même au niveau international, il n'y a pas beaucoup de concurrence.
S'intéresser à la forme parce qu'elle fait sens, c'est aussi à moindre échelle. Donc prendre en compte non seulement ce qui est dit, mais la manière plus signifiante souvent dont cela est dit, c'est aussi ce que font des chroniqueurs ou animateurs à la télé. Alors quel regard justement vous portez sur, par exemple, le révélateur de la journaliste Nathalie Saint-Cricq sur France 2 dans l'émission Des paroles et des actes, qui a fait un succès dernièrement avec David Pujadas aux commandes, ou alors aussi à cette émission Entre la satire et l'analyse, le petit journal de Yann Barthès sur Canal+.
C'est pas la même temporalité, c'est pas exactement les mêmes règles du jeu, mais je crois que on est plus en présence d'un continuum que d'une véritable opposition.
Ils vont dans le même sens, en fait.
C'est tout à fait clair. Alors, les paroles et les actes, moi, ça me pose un problème, c'est le titre.
Le titre, oui.
Parce que c'est un titre qui laisse supposer, ou qui pourrait laisser supposer, une opposition entre parole et acte. Et ça, c'est évidemment quelque chose que nous récusons régulièrement dans l'analyse du discours, puisque partons du principe que parler, c'est agir, et notamment en politique, à tel point qu'on peut parfois se demander s'il y a autre chose que de la parole en politique. En tout cas, s'il y a autre chose que du langage, pas forcément du langage verbal. Il y a le langage gestuel, il y a toutes sortes d'autres langages. Là, formulé comme ça, parole et acte, ça renvoie un peu trop à un sens qu'on retrouve dans les critiques classiques faites aux politiciens. Ils parlent beaucoup, il ferait mieux d'agir, quoi. Alors qu'en réalité, c'est pas si simple. C'est pas si simple, c'est souvent en parlant qu'ils agissent.
Alors, on le voit dans ce que vous dites, et aussi dans la volonté de ces émissions qui sont peut-être plus connues que la revue que vous défendez, évidemment. Ça montre l'importance, en politique et surtout en période électorale, de ce qu'on appelle la communication, et qui, de plus en plus, dans la bouche de certains commentateurs, devient un gros mot, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Et dans votre livre, qui est un abécédaire politique, donc des mots, les mots des élections, on trouve une entrée. Communication, et je vous cite, communication. Le mode électoral parle encore de propagande, mais on préfère aujourd'hui parler de communication. L'importance sans cesse croissante des médias de toutes sortes dans une campagne électorale semble justifier l'emploi de ce terme. La maîtrise de sa communication devient un enjeu majeur pour le candidat, maîtrise de sa parole et de son image, qui devient de plus en plus difficile du fait du développement des nouveaux moyens d'enregistrement audiovisuel et de diffusion massive et instantanée. Ceux qui se revendiquent spécialistes en la matière, les spin doctors, sont censés avoir une part non négligeable dans les victoires et dans les défaites par le biais des conseils qu'ils prodiguent pour orienter l'opinion. Alors on s'en rend compte, lors de leur passage média, les hommes et femmes politiques répètent parfois les mêmes phrases, les mêmes mots, les mêmes expressions qu'ils ont préparées avant ou qui leur a été préparée avant. C'est donc cela aujourd'hui la politique ? Avant tout, le poids des mots et le choc des photos, et ensuite les idées.
Oui, sauf à ne pas forcément opposer les mots et les idées.
Parfois, on a l'impression que les hommes politiques, dans leurs différents passages radio, c'est qu'ils répètent de plateau en plateau, comme un peu des robots. Des formules qui, en soi, sont parfois très creuses.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux phénomènes qui s'entrecroisent. Là. Il y a le phénomène éléments de langage, ce qu'on appelle maintenant les éléments de langage. C'est-à-dire c'est des consignes. Hein. Des consignes données. Il s'agit de faire en sorte que tout le monde dise à peu près la même chose. Et surtout, c'est même pas tellement dire la même chose, surtout qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il faut tenter d'imposer aux lecteurs et aux auditeurs, aux téléspectateurs, une certaine interprétation de ce qui vient de se passer, d'un événement, d'une réalité, d'une situation. Et
d'où
pour
la
maîtriser ça, il faut effectivement faire en sorte que tout le monde dise à peu près la même chose sur le sujet. Ça, c'est les éléments c'est effectivement les éléments de langage. Et puis, très proche de ça, il y a le phénomène du slogan et puis le phénomène des ce qu'on appelle les petites phrases, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement...
Justement, on va venir au slogan, parce que c'est des mots qu'on nous impose et qui restent. Alors certains sont devenus historiques comme la Force tranquille de Mitterrand en 1980 ou le fameux Giscard à la barre de Valéry Giscard d'Estaing en 1974 ou plus récemment Ensemble tout devient possible de Nicolas Sarkozy, c'était en 2007. Ces slogans qui nous ont marqués sont également, on peut le remarquer, des slogans gagnants. Parce que qui se souvient qu'en 1981, face à la Force tranquille, le slogan de Valéry Giscard d'Estaing était « Il faut un président à la France ». Qui se souvient que, face au slogan de Nicolas Sarkozy, en 2007, Ségolène Royal opposait « Plus juste, la France sera plus forte ». Alors nous allons, si vous le voulez bien, Paul Bacot, prendre quelques slogans des candidats de 2012 à l'élection présidentielle et vous allez rapidement nous faire une petite analyse en nous. Par exemple, le slogan de Nicolas Sarkozy qui est « La France forte ».
Oui, ces slogans de campagne, ils se ressemblent souvent beaucoup. Ils puisent dans un stock finalement relativement limité. Hein. La France forte, d'ailleurs certains se sont empressés de ressortir quelques archives de Vichy pour montrer que on utilisait déjà dans certaines propagandes appelant au travail en Allemagne cette expression, il fallait aller travailler en Allemagne pour se faire une France forte. Après, un slogan, est-ce qu'on le retient, est-ce qu'on ne le retient pas, est-ce qu'on va dire que c'est un bon slogan ou que c'est un mauvais slogan, souvent c'est tout simplement les résultats électoraux qui le disent, et après coup on interprète, on dit c'est le tel slogan qui a fait gagner. Monsieur Séguéla, effectivement, avant de se faire remarquer en insultant Madame Audrey Pulvar ou un peu plus loin dans le temps maintenant, en arrangeant le mariage de notre président de la République, c'était longtemps enorgueilli d'avoir fait gagner Mitterrand en 80 avec la Force tranquille. Bon, c'est totalement improuvable. Totalement improuvable, bien sûr.
Quand on décide d'un slogan, on veut créer une image. Quand vous entendez la France forte, comment vous pourriez analyser ça pour nos auditeurs ?
Il y a déjà la présence du nom France, qui,
c'est vrai, qui n'est pas toujours.
Déjà donne une indication sur l'image que le président veut donner de lui-même, une dimension nationale, une référence nationale assez explicite. France forte, l'avantage de l'adjectif, évidemment, c'est que c'est très polysémique, c'est très très flou. Oui. En quoi est-elle forte ? En quoi est-elle forte ? Il y a mille et une façons d'imaginer une France forte, bien sûr. L'autre force, pour le coup, de cet adjectif, c'est que, évidemment, qui pourrait être contre ? Qui pourrait souhaiter une France faible ? C'est effectivement le genre de slogan qui est gagnant à tous les coups. Avec les inconvénients de la chose, mais bien sûr.
Alors, il n'y a pas le mot France dans celui de François Hollande. Son slogan, c'est « Le changement, c'est maintenant ». Alors,
le changement, alors pour le coup, c'est vraiment un mot qui est très, très, très utilisé dans les slogans et pas seulement dans la présidentielle. On a eu le changement sans risque, on a eu le changement dans la continuité, on a eu beaucoup, beaucoup de changements. C'est tellement flou, c'est tellement polysémique. Changement en quoi ? On va vers où ? Qu'est-ce qu'on veut changer ? On ne le dit pas. Donc c'est toujours un petit peu le même procédé. Hein. Il s'agit toujours de rassembler quand même le plus largement possible. Donc il faut être le plus vague possible pour rassembler. Plus on est précis, moins on rassemble, forcément. Jusqu'à un certain point, parce que si c'est trop vague, ça n'est plus mobilisateur. C'est toute la problématique, je crois, du slogan politique. Il faut rassembler, mais il faut quand même cliver aussi.
Alors justement, quelqu'un qui peut cliver par son slogan, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui, quant à lui, opte pour un slogan très injonctif, « Prenez le pouvoir ». On est loin de la force tranquille de Mitterrand, là, pour le coup.
Oui, encore que parmi les slogans mitterrandiens, il y avait des slogans qui reprenaient un petit peu cette formule, redonner le pouvoir aux Français. Donc ça aussi, c'est très classique, c'est une façon de flatter le citoyen, c'est une façon de dénoncer les sortants qui auraient accaparé le pouvoir pour eux, et c'est une façon de donner de l'espoir aux autres, aux citoyens, en leur disant qu'ils vont avoir plus de pouvoir, et s'ils ont plus de pouvoir, on peut supposer évidemment qu'ils en feront bon usage, et donc que ça ira mieux pour eux.
Alors il y a des mots qu'on nous impose et des mots qui finissent par s'imposer d'eux-mêmes. En 2002, c'était insécurité, en 2007, immigration et travail. Et en 2012, quel est le ou les mots emblématiques, selon vous, de cette élection ou de cette campagne, les mots qui vont rester ?
Ah, c'est peut-être encore un peu tôt pour le dire, mais les riches,
les riches
peut-être.
Ouais.
On a beaucoup parlé des riches. Qu'est-ce qu'on fait des riches? Qui sont les riches? À partir de quand est-on riche? Et est-ce que on a du mérite à être riche ou pas? Est-ce qu'il faut payer plus quand on est riche? Vous avez aussi le peuple, bien sûr. Mais ça, c'est pas vraiment nouveau, mais quand même. Le candidat du peuple. Pareil, le peuple, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'ensemble de la population ou est-ce que c'est une partie de cette population, la partie la moins favorisée? Mais à ce moment-là, où se trouve la limite? Chacun peut se retrouver dans le peuple. Ça produit la réplique avec l'accusation de populisme. Également un terme très vague d'ailleurs, très, très polémique. Le populiste, c'est toujours l'autre finalement, quoi. C'est toujours l'adversaire. Il faut donc être pour le peuple, par le peuple, avec le peuple, sans être populiste. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça passe, c'est toujours assez difficile. Mais on pourrait trouver peut-être d'autres mots. Par exemple, l'adjectif inouï, qui est très utilisé par le candidat sortant. Une crise inouïe. Il s'agit, face à un bilan objectivement pas extraordinaire, de se dédouaner en disant c'est la faute à une crise inouïe. À partir du moment où c'est inouï, donc c'est totalement imprévisible, c'est incommensurable, c'est incomparable avec tout ce qu'on a pu connaître jusque-là. Donc, il n'y a plus de mesure possible, il n'y a plus de comparaison possible. Et donc, la question du bilan est évacuée.
Très bien. Alors, peut-être que les électeurs, justement, auront tous ces mots en tête. Alors, peut-être pas inouï, mais les riches et le peuple, certainement, au moment de voter, dimanche 22 avril. Et dans votre livre, Les mots des élections, vous écrivez à propos du vote. La formule rituelle « à voter » prononcée par le président du bureau de vote symbolise à elle seule l'acte de vote, lequel ne peut être ramené à la seule expression d'un choix ou d'un non-choix, aucun de vote blanc. La participation au scrutin vaut aussi affichage de l'appartenance à une communauté. C'est ce que je voulais essayer un petit peu de mettre en lumière en ouvrant l'émission tout à l'heure. Et vous continuez avec ceci. Mais le mot « vote » peut aussi signifier le choix lui-même et sa matérialisation. C'est dans ce sens-là qu'on peut qualifier le vote de différentes façons. Et vous évoquez notamment le vote utile. Alors on entend justement beaucoup parler de ce vote utile en ce moment, et plus l'échéance va se rapprocher, plus on entendra parler. Il y aurait donc un vote utile et un autre qui serait plus utile. Ça veut dire quoi, ce vote utile? Est-ce que inconsciemment ou consciemment, cela ne contribue pas à l'appauvrissement du débat public où on entend toujours les deux ou trois sensibilités et où on bouche les oreilles des électeurs à d'autres sensibilités qu'on moque parfois et à d'autres idées qui ne viennent pas de ces deux ou trois grands groupes?
Ça tient d'abord au mode de scrutin. Si vous êtes dans un mode de scrutin strictement proportionnel, chacun vote comme il veut, selon le nombre de chaque électorat, la représentation sera proportionnelle, ça fera un élu, ça en fera 10, ça en fera 100. Il n'y a pas de problème de vote utile à ce niveau-là, sachant qu'en réalité, c'est après l'élection que les élus s'entendront entre eux pour constituer plus ou moins une coalition. Mais les électeurs n'ont pas leur mot à dire dans ce système-là. Par contre, dans le système français majoritaire, et surtout majoritaire à deux tours, alors là, effectivement, ça laisse une grande place à la stratégie. Parce que on pourrait considérer, évidemment, que le premier tour, selon la formule consacrée, se fait pour choisir et le deuxième tour pour éliminer. Donc au premier tour, on choisit ce qu'on veut, qui on veut, ce dont on se sent le plus proche. Et puis après, au deuxième tour, on élimine celui ou celle dont on ne veut pas. Sauf que pour être au deuxième tour, il faut avoir obtenu un certain score au premier tour, et dans le cas de la présidentielle en France, c'est encore plus strict que ça, c'est uniquement les deux premiers qui restent en course. Donc forcément, on ne peut plus construire son vote de premier tour sans penser aux conséquences que ça aura pour la sélection, la qualification, comme on dit maintenant d'ailleurs, pour le deuxième tour. Et puis, c'est d'autant plus... la tendance à aller d'autant plus dans ce sens que alors, c'est vrai, c'est très clair du point de vue des sciences sociales, de la science politique, de son évolution dans les dernières décennies, mais ça va au-delà du milieu des sciences sociales. On a de plus en plus tendance à considérer l'électeur comme un individu rationnel, raisonnant, calculateur, etc. etc. Et donc, évidemment, on s'imagine qu'il est stratégique. Comme, troisièmement, il y a l'événement du 21 avril 2002 qui reste dans les mémoires et que beaucoup ont évidemment intérêt à une mémoire que certains ont intérêt à activer, bien sûr, hein. La crainte pour certains du 21 avril, voire du 21 avril à l'envers, comme on dit, hein, peut conduire à effectivement un vote utile, c'est-à-dire un vote qui n'est pas forcément le vote qu'on aurait envie de faire, mais que l'on va faire raisonnablement compte tenu de la façon dont on anticipe le second tour.
Alors justement, vous parliez du 21 avril, c'est une des nombreuses entrées de votre livre. Vous analysez les causes de cet événement et aussi la façon dont cet événement, 21 avril 2002, est devenu un mot en soi. 21 avril qui a été sorti de son contexte historique, on va dire, pour signifier quelque chose. Et c'est pourquoi on peut le tourner dans tous les sens, parler des anti-21 avril ou des 21 avril à l'envers. Et vous signalez aussi qu'il y a eu un changement de regard sur les élections après le 21 avril, ce qui est normal, et que c'est après cette date qu'on a pris l'habitude de parler de qualification à propos de la règle de maintien au second tour pour les deux seuls candidats qui étaient le mieux placés après le premier. Alors l'élection présidentielle, c'est un peu comme les JO, c'est il faut réussir les minima.
Alors, je crois que c'est pas nouveau que l'on utilise beaucoup de métaphores en matière de discours sur les élections. Des métaphores de toutes sortes, dont les métaphores sportives. Simplement, je crois qu'effectivement, ce qui s'est passé le 21 avril 2002 a peut-être fait prendre conscience de façon plus forte, plus directe, plus brutale, des spécificités de ce mode de scrutin, et qui le font ressembler effectivement à une compétition sportive avec des tours éliminatoires où c'est les deux premiers ou les trois premiers qui sont sélectionnés. Et puis même s'il y a une demi-seconde d'écart ou un demi-centième de seconde d'écart, vous êtes le troisième, vous n'êtes pas le deuxième, vous êtes éliminé. Ou quatrième, troisième, selon le type de compétition. On le voit bien en ce moment, dans la période actuelle pour les qualifications pour les Jeux Olympiques. Donc effectivement, oui, je crois que l'événement a contribué à accentuer ce rapprochement entre l'image de la compétition sportive et l'image de la compétition électorale.
Des images très répandues, on parle de course à la présidentielle, mais des images aussi qui vont dans d'autres champs lexicaux, par exemple le champ lexical de la guerre. Et j'aimerais que vous nous expliquiez d'où vient ou quelle interprétation on peut faire du mot parachutage, comme vous le faites dans le livre.
Alors, il semble que l'utilisation de parachutage et de parachuter en matière électorale remonte aux années 50. Il semble que ça remonte aux législatives de 56. Probablement sous l'influence des événements d'Algérie, de la guerre d'Algérie et de la place occupée par les paras, hein, notamment la bataille d'Alger ou d'autres opérations avant même la bataille d'Alger. Et donc, depuis, on a pris l'habitude. Alors, c'est une métaphore qui marche très bien parce que une métaphore marche d'autant mieux qu'elle peut renvoyer à toutes sortes d'analogies, à toutes sortes de comparaisons. C'est vrai que le candidat parachuté tombe du ciel, quoi, en quelque sorte. Hein. Il n'est pas sur place, hein. Il vient d'ailleurs. Souvent, ça se fait de façon assez rapide. Hein. La décision est prise de façon assez rapide. Donc, il y a une surprise.
La décision vient du haut.
Ouais, elle vient du haut. En l'occurrence, Paris. Hein. Une assimilation du centre et du haut qui est assez classique. Le parachutage réussit si d'abord il y a un minimum de savoir-faire de la part du parachuté, s'il reçoit de l'aide de la part de ceux qui le parachutent, et puis il faut aussi un minimum d'accueil au sol. Hein. On sait bien que quand il y a parachutage, il faut quelques complices, soit déjà une présence militaire alliée sur place, soit des groupes
de civils qui aident,
des partisans, etc., etc. Et là, pour qu'un parachutage réussisse, même s'il a imposé au parti, à l'organisation locale du parti, il faut quand même qu'il y ait des militants ou des sympathisants qui, eux, sont prêts à jouer le jeu et à faire la jonction entre le moment du parachutage toujours difficile et puis le moment où tout le monde se résigne, ça y est, c'est le candidat, la bataille est lancée.
Alors on ferme la parenthèse, on reprend le parachute et on continue à parler du vote puisque c'est bientôt. Alors un autre vote qui et aussi au cœur des préoccupations des Français, et qui n'apparaît pas dans votre entrée vote, c'est le vote blanc. En effet, il y a beaucoup de candidats qui se déterminent pour ou contre la prise en compte du vote blanc. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant que professeur S sciences politiques sur le vote blanc ?
Ça, c'est une vieille histoire qui ressortit régulièrement, effectivement. Que faire des votes blancs ? C'est un peu comme, déjà, que faire des abstentionnistes, parce que c'est le principe du quorum. Hein. Est-ce qu'un scrutin est valable s'il y a trop d'abstentions ? Alors quand il s'agit d'élire en général, on ne se pose pas la question, mais dans beaucoup de pays, dans pas mal de systèmes, un référendum n'a de résultat valide qu'à la condition qu'il y a une certaine participation. Bon.
Mais l'abstention, elle est quand même chiffrée en France. On la connaît, on peut ressortir les taux. Oui. Alors que le vote blanc, ce n'est pas quantifié.
C'est quantifié avec les votes nuls, alors que, effectivement, selon le slogan utilisé par certains, blanc, c'est pas nul. Donc, effectivement, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Encore qu'on ne sait jamais très bien. Parce que l'une des façons de voter blanc, c'est de voter nul. Quand vous mettez deux bulletins différents, ou un bulletin raturé, ou etc., vous savez que c'est nul. Il n'y a pas forcément une grande différence avec celui qui met, ou celle qui met un bulletin blanc. Je crois qu'on exagère beaucoup cette spécificité du bulletin blanc par rapport au bulletin nul. Parce que, évidemment, dans les bulletins nuls, il y a des bulletins nuls involontaires. Ça, effectivement, c'est complètement différent. C'est trompé, c'est voilà. Donc,
parfois dans les votes nuls, peut y avoir aussi, pour avoir participé à des dépouillements, peut y avoir aussi des mots de plaisantin, des gens qui raturent et qui mettent des choses à la place, qui prouvent qu'ils ne prennent pas forcément l'acte au sérieux, alors que quelqu'un qui se déplace pour mettre dans son enveloppe justement rien ou un papier blanc, il a quand même fait la démarche de se déplacer autrement que pour juste plaisanter sur tel ou tel candidat ou faire une croix gammée sur
un bulletin. Oui, mais l'humour peut être très sérieux. Si on prend des exemples un peu lointains, mais qui ont longtemps été assez classiques, voter pour Brigitte Bardot ou pour Jean 23, ça peut être effectivement une façon de dire tout ça, c'est de la rigolade. Oui, bien sûr. Mais ça peut être une façon humoristique de dire... l'offre électorale lors de ce scrutin étant ce qu'elle est, je ne peux pas choisir, ou bien les règles électorales ne me plaisent pas et je ne veux pas, mais en même temps je suis un bon citoyen donc je participe. Hein. Donc encore une fois, c'est un problème d'interprétation, on n'est pas dans la tête de l'électeur, on n'est pas dans l'isoloir, c'est très difficile après d'interpréter et le blanc et le nul.
Alors on va justement finir sur ce mot isoloir. Ça rentre dans toute la mise en scène du vote qui est fait par la République elle-même. L'isoloir, il n'est pas présent dans tous les scrutins, dans tous les pays européens. Pourquoi mettre un isoloir ?
Ça n'a pas été toujours le cas en France, d'ailleurs. Hein.
Bien sûr, oui.
Ça remonte au début du XXe siècle, c'est tout. Hein. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Faut-il se cacher pour exprimer son vote ? Les arguments sont classiques. D'un côté, oui, en se cachant avec le secret du vote, ça permet une vraie liberté du vote, sans craindre de représailles, sans prendre le risque d'avoir des échanges, des achats, que sais-je encore. Hein. Mais, argument inverse, un citoyen doit assumer son choix. Et on l'entend encore quelquefois, hein, des personnes... Qui refuse, contrairement à ce que dit le code électoral, qui refuse de passer par l'isoloir. On leur dit, monsieur, madame, passez par l'isoloir. Et moi, je sais, j'ai avoir entendu des réactions du genre, mais j'ai pas honte de mon vote.
Par exemple, on sait que en RDA, y avait un isoloir pour les élections, mais c'était très très mal vu d'aller dans l'isoloir. Là, c'est le contraire.
Voilà, c'est interdit, normalement, de ne pas aller dans l'isoloir. Est-ce que c'est toujours respecté ? C'est pas certain. Rien ne vous empêche, en réalité, de ne prendre qu'un seul bulletin avant d'aller dans l'isoloir. Et ça, c'est public. La table avec le dessert où se trouvent les tas de bulletins, vous faites ça, oui. Alors, la plupart des gens prennent plusieurs bulletins, ils les prennent tous, ou en prennent deux ou trois, pour précisément maintenir le suspense sur leur vote, en tout cas le caractère secret de leur vote. Mais parfois, vous en voyez qu'on peut très bien ne prendre qu'un bulletin.
Bulletin, vote, isoloir, scrutin, beaucoup de mots dont on vient de parler qui sont dans votre livre, mais avec bien d'autres. Merci Paul Bacot. Je rappelle le titre de votre livre, Les mots des élections, c'est publié aux presses universitaires du Mirail. C'est maintenant l'heure du zoom politique, ou comment revenir en quelques minutes sur l'actualité de la campagne présidentielle de ces dernières semaines. Et dans le zoom politique, voici le chiffre de la semaine, ou plutôt les chiffres de la semaine, ceux de la fiscalité. Que proposent les candidats à l'élection présidentielle en cette matière? Passons les programmes au zoom politique. Nicolas Sarkozy campe sur sa promesse de 2007 de réduire l'impôt et ne prévoit donc pas de hausse. Cependant, le gel du barème de l'impôt sur le revenu pour 2012 ou 2013, en annulant la prise en compte de l'inflation, implique de facto une hausse de l'impôt. Nicolas Sarkozy, sous couvert de ne pas y toucher, attend donc de cette hausse d'impôt qui ne dit pas son nom, une manne financière pour financer ses réformes et réduire la dette de la France. Sinon, pour tous les autres, c'est surtout les contribuables les plus aisés qui sont ciblés en priorité. François Hollande prévoit ainsi la création d'une nouvelle tranche d'imposition à 45% à partir de 150 000 euros par an de revenus. Il a par ailleurs surpris en annonçant sur le plateau de Parole de candidat sur TF1 fin février un nouveau taux à 75% pour les revenus supérieurs à 1 million d'euros par an. Pour ces mêmes très hauts revenus, Dominique de Villepin, lui, fixe la barre à 60%, alors que pour Jean-Luc Mélenchon, il faut une tranche de revenus imposée à 100% lorsqu'on dépasse 360 000 euros par an. Marine Le Pen entend de son côté améliorer la progressivité de l'impôt avec la création de nouvelles tranches intermédiaires de l'impôt sur le revenu et notamment en faisant passer de 41% à 46%, celui du taux supérieur. Enfin, aucun des principaux candidats n'évoque une hausse de la CSG, sauf Nicolas Sarkozy, qui envisagerait de la relever de 2 points sur les seuls revenus financiers. Guerre des taux, guerre des tranches, guerre également autour de la question de la TVA. Avec sa TVA sociale qui se cache, sans tromper personne, malgré son nouveau nom de TVA compétitivité, Nicolas Sarkozy veut relever la taxe sur la consommation de 1,6 point au 1er octobre en contrepartie de la suppression des charges familiales patronales pour les salaires allant de 1,6 à 2,1 fois le SMIC. Le taux normal de TVA passerait ainsi de 19,6 à 21,2%. Alors François Hollande lui a annoncé déjà qu'il supprimerait cette TVA sociale et Jean-Luc Mélenchon veut réduire de plusieurs points le taux principal de TVA d'origine et évidemment il supprime la TVA sociale. Nathalie Arthaud de Lutte Ouvrière veut elle carrément supprimer la TVA considérée comme l'impôt le plus injuste et compenser cette perte par une taxation plus forte sur les revenus du capital. La candidate FN, quant à elle, propose de rendre la TVA plus progressive. Les produits de première nécessité continueraient ainsi à bénéficier du taux réduit à 5,5, alors qu'un taux majoré serait par exemple institué pour les produits de luxe. D'avoir connu le jingle, on termine avec l'alerte rouge de la semaine qui a eu du mal à se lancer mais qui a été lancée. Et c'est Jacques Cheminade qui fait retentir l'alerte rouge dans le studio. Vous ne connaissez pas Jacques Cheminade ? C'est dommage. Parce que Jacques Cheminade, il vaut vraiment le coup d'être connu. Pas forcément pour sa présence, assez insignifiante dans la vie politique française. La preuve, la première fois qu'il est candidat, c'est aux élections législatives en 1978, dans la 25e circonscription de Paris, et il obtient alors 0,12% des voix. La mégalose, quoi. Il n'a jamais réussi à recueillir les 500 signatures d'élus nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle, sauf en 1995, où il avait rassemblé 0,27% des suffrages exprimés au premier tour. Notons qu'il avait alors plus que doublé son score, si on compare au 0,12% de jadis. Une nette progression qui l'a certainement encouragé à persévérer, puisqu'il se présente cette année aux élections présidentielles, ayant recueilli apparemment les 500 parrainage. Non. Si Jacques Cheminade vaut la peine d'être connu, ce n'est pas pour ses résultats, c'est pour ses idées. En effet, alors que la question de la transition énergétique est au cœur de tous les débats, alors que la question de l'après-nucléaire cristallise à tort toute l'attention et que personne ne semble s'intéresser à l'après-pétrole, dont l'urgence est bien plus pressante, Jacques Cheminade, lui, va à contre-courant. Parce que Jacques, il n'a peur de rien. Jacques, c'est un rebelle. Jaco, c'est un déglingo. Il propose en effet de passer au nucléaire de quatrième génération et de développer la fusion thermonucléaire. Suivons son raisonnement qui est disponible sur son site internet, soit personnel, Jacques Cheminade 2012, ou alors le site de son parti, Solidarité et Progrès, que ça vaut le coup. Voilà comment il justifie de passer au nucléaire de quatrième génération et de développer la fusion thermonucléaire. La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne peut pas passer sa vie entière dans un berceau. Alors déjà, je sais pas vous, mais quand un chapitre d'un programme consacré à l'énergie commence ainsi, d'abord, je vérifie que ce n'est pas une parodie. Hélas, ce n'est pas une parodie. Ensuite, j'attends la fameuse phrase qui mériterait à celui qui la prononce qu'on l'euthanasie. De tout temps, les hommes... Bon, il n'est pas allé jusque-là, Jacques. Et enfin, je me dis que la suite va être gratinée. Elle l'est, je continue. Le feu de bois a été une source d'énergie fondamentale, mais toutes les forêts du monde ne pourront jamais alimenter le feu capable de faire cuire la nourriture et fonctionner les industries de milliards d'êtres humains. On dirait un peu du Miss France. Au moins, on peut pas lui reprocher ça à Jacques Cheminade, c'est un candidat plein de bon sens. Quoique, écoutez la suite. La clé de l'avenir est la mise en place d'un corridor thermonucléaire entre la Terre et Mars via la Lune. Ceci est envisageable à condition de développer les moteurs à fusion thermonucléaire qui mettront Mars à notre portée en une semaine. Il était bien parti, Jacques. Il nous parlait de berceau, de bois, et là, paf ! Au détour d'une phrase, sans crier gare, nous voilà assis à côté de lui dans une fusée pour Mars. En fait, Jacques Cheminade, c'est un peu l'inspecteur gadget qui rêve de jouer dans un remake de Star Wars. Et le pire, c'est qu'il persiste et signe, je cite, « La technologie nécessaire pour faire cela existe de manière implicite et ne demande qu'à être développée. » Alors j'aime beaucoup l'idée d'une technologie qui existe de manière implicite. Il faut tout de même signaler que des projets scientifiques sérieux d'études de la fusion de l'atome existent, comme le projet ITER dans la vallée du Rhône, avec déjà 11 milliards d'euros déboursés par l'Union européenne, oui oui, dont le prototype à la construction toujours retardée devrait être prêt à l'environ 2020, pour ensuite produire un premier plasma qui serait exploité et étudié pendant 20 ans, avant de lancer, ou non, une exploitation industrielle, ce qui repousse à la fin du siècle les possibles avancées concrètes dans ce domaine. Mais Jacques Cheminade, lui, c'est un avant-gardiste. Et surtout, un grand scientifique que tout le monde ignore. La technologie nécessaire pour faire cela existe de manière implicite. Et d'ailleurs, il va plus loin, je continue. Et le programme que nous mettrons en place pour développer la capacité de réaliser un corridor thermonucléaire entre la Terre et Mars via la Lune est la seule chose qui donnera aux États-Unis et au monde en général l'espoir de sortir de la crise actuelle. Bon alors, on ne sait pas trop pourquoi il parle des États-Unis. Peut-être qu'il est aussi candidat aux élections présidentielles américaines parce que Jacques, une fois qu'il est lancé, rien ne l'arrête. Une fois qu'il a ses 500 signatures, il veut tous nous emmener sur Mars, via la Lune. Oui, j'aime bien la mention du « via la Lune », ça fait un petit peu plus sérieux. La Terre et Mars, c'est beaucoup trop éloigné. Je vais faire un crochet à mon corridor. Ce sera plus crédible. On va faire un petit passage par la Lune. Mais c'est pas fini. Je continue de lire sa proposition. Par conséquent, si nous sommes sains d'esprit... Oui, alors il fallait le préciser, si nous sommes sains d'esprit, c'est vrai qu'on commençait un peu à en douter. Par conséquent, si nous sommes sains d'esprit, le thème principal de notre activité à partir d'aujourd'hui sera la fusion thermonucléaire comme moteur pour aller vers Mars. Donc, la solution à la crise écologique et énergétique actuelle est dans la fuite sur Mars. Il fallait y penser. Tout ce que je vous ai raconté n'est pas une blague, je tiens vraiment à le dire, parce que on pourrait le croire, non non, vous pouvez aller vérifier sur son site Solidarité et Progrès. En tous les cas, si vous êtes déprimé, pensez-y, le programme de Jacques Cheminade, il est très long, il y a plein de bonnes idées comme ça, il s'intitule « Un monde sans la City, ni Wall Street », il est disponible en ligne et il permet de bien rire, à défaut de faire progresser la réflexion. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Merci à Xavier, Marie-Ève et Fabien à la technique. J'espère que cette année durant, nous vous avons informé et permis d'y voir plus clair dans cette campagne présidentielle. Alors, président, ce n'est pas fini. Hein. Nous reviendrons dans l'entre-deux-tours. Tiens, encore un autre mot qui est présent dans le livre de Paul Bacot, les mots des élections. Dans l'entre-deux-tours, avec une formule un petit peu différente de celle que vous connaissez. Et la semaine prochaine, à partir de mercredi 18 avril, donc, vous retrouverez Amos pour un carnet de fin de campagne. Quant à moi, je vous dis à bientôt, après le premier tour des élections donc, et d'ici là, plus que jamais, surtout n'oubliez pas, gardez l'esprit critique.